Frères, venons nous entendre au début de l'épître. Frères, je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le dimanche 12 septembre 1683 était le jour qui a fixé les destinées de Vienne, de l'Europe, et de toute la chrétienté. Il vous en a été parlé il y a quelques semaines. Le matin, l'immense armée musulmane, assiégeant depuis 2 mois la capitale du Saint-Empire, avec ses 250 000 soldats, croyait tenir l'Occident sous sa main. C'était au petit matin. Le soir, il n'en restait que 20 000 morts et des blessés incapables de se mouvoir, et les autres se sont enfuis dans la nuit. Et tout cela sans conteste grâce au génie militaire du roi de Pologne, Jean III Sobieski, le chef de l'ensemble de l'armée chrétienne. Celle-ci, précisons-le, était 3 fois moins nombreuse que l'armée du Croissant. Le roi entre dans Vienne, et par cette même brèche, où sans lui, le même jour, auraient passé les barbares. À son approche, la foule, qui la veille n'avait en perspective que la mort ou l'esclavage, le salue avec délire, baise ses habits. Le libérateur s'étonne seulement de ne pas voir devant lui aucun magistrat, aucun fonctionnaire civil. Le cheval de Sobieski a peine à lui frayer un passage jusqu'à la cathédrale, et là, le roi entonne lui-même le Te Deum et remercie Dieu du succès étonnant qu'il devait à sa protection. L'empereur Léopold, à la nouvelle que sa capitale était libérée, se hâte d'y revenir. Avant, il a laissé à d'autres le soin de défendre ses états et sa couronne. Et il a pris la fuite avec sa famille. Il est presque aux portes de la ville quand il entend les salves du canon. On célèbre le triomphe sur les infidèles. Il suspend sa marche pour ne pas être spectateur de la gloire du grand capitaine. Et puis, maintenant, il n'a plus rien à craindre. Ses ennemis sont terrassés ou en fuite. Et encore des lois de l'étiquette. Lui est l'empereur. Et le roi de Pologne n'était qu'électif. D'ailleurs, disons-le, l'empereur aussi. Il fait donc connaître au roi qu'il ne pourrait pas le traiter en égal. Il a bien oublié sa lettre. Ou, quand la fortune de l'Empire chancelait, il supplia ce petit roi, petit parce collectif, de le secourir. Et alors Léopold ne refusa de lui accorder le titre de majesté. « Nous attendons, écrivit l'empereur, la présence de votre majesté. Nous sommes persuadés que votre royale personne, une fois à la tête de nos soldats, saura défaire nos ennemis communs. » L'empereur et votre majesté se rencontrent en pleine campagne près de Vienne. Cette entrevue sera plus que glaciale. Léopold n'ouvre la bouche que pour dire quelques vagues paroles de remerciement qu'un autre devait lui souffler. Le roi, aussi spirituel que brave, répond « Je suis bien aise, mon frère, de vous avoir rendu ce petit service. » Puis, présentant le prince Jacques, son fils, il ajoute « Voilà mon fils, je l'élève pour le service de la chrétienté. » L'empereur s'obstine à rester immobile et muet. Sobieski tourne bride brusquement. « Au revoir, dit-il, je retourne aux Turcs. Si par hasard vous désirez voir mes régiments, mais généraux ont ordre de vous les montrer. » Et le roi s'éloigne au galop. On comprend bien l'indignation, indignation qui restait bien courtoise, du libérateur de la chrétienté. Et voici comment s'indigne un autre roi. Celui-ci se plaint un jour à son ami. Il lui montre, sur un tronc de flammes, son cœur, entouré d'épines, et surmonté d'une croix, et il lui dit : « Voilà ce cœur qu'a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné, jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et en remerciement, en reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leurs irrévérences et leurs sacrilèges et par les froideurs et le mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. » Vous comprenez, chers fidèles, de quel roi est-il question ici? Et voilà, le manque de gratitude envers un roi terrestre nous fait, j'espère, bouillonner. Tandis que l'absence de l'action de grâce vis-à-vis d'un roi céleste, roi des rois, ayant son trône ici-bas, au tabernacle, nous laisse froid. Demandons-nous, d'où vient notre ingratitude? Eh bien, réfléchissons un peu comment sont nos prières. Ce qui nous y pousse, c'est notre intérêt. On demande à Dieu de détourner de nous tous les maux, de faire descendre des grâces. Et la faveur, une fois acquise, on ne se sent pas obligé d'en remercier. Enfant gâté. Imaginons qu'un ami nous prête sa carte bancaire. On va devant le distributeur de billets, on y met la carte, on introduit le code et on prend l'argent. Mais après, on ne dit pas merci ni au distributeur, cela se comprend, ni à notre ami. Ingratitude. Notre intérêt nous incite à la prière, mais l'amour seul peut nous inspirer la reconnaissance. Là se trouve la cause de notre ingratitude vis-à-vis du bon Dieu. Nous n'aimons pas beaucoup le bon Dieu. Mais rien n'est perdu, chers fidèles, car l'action de grâce, cela s'apprend. Tout comme avec les petits-enfants, quand la maman, en leur donnant une friandise, leur apprend en même temps à dire le mot « merci ». Souvent, elle le fait avec eux d'une voix grêle. Merci, maman. Avant de montrer comment nous pouvons apprendre la gratitude, cherchons d'abord où le bon Dieu nous gratifie le plus, où nous recevons de lui le plus de grâce. C'est dans la Sainte Eucharistie qui nous les donne avec plus d'abondance. C'est là où Jésus-Christ se plaît davantage à exaucer nos prières. Là, en effet, nous sommes en présence non seulement des dons, mais du donateur lui-même. C'est là, avant tout, qu'il nous faut apprendre à bien faire notre action de grâce. Et voici une pratique qui nous y aidera. Elle s'appelle ardor. Ardor. Ardor, ça tombe bien parce que en latin, ce mot signifie feu, ardeur. Et il faut bien embraser nos actions de grâce. Ardor, A-R-D-O-R, où chaque lettre correspond à l'action dont se composera notre action de grâce. Une sorte de méthode mnémotechnique. D'abord, la lettre A, comme dans l'adoration. Adoration. Et qu'est-ce qu'on va adorer dans le très saint sacrement? D'abord, la très sainte Trinité, elle tout entière y est présente. Ensuite, la sainte humanité de notre Seigneur. D'abord son âme, âme sainte par excellence, remplie de mérite, brûlant d'amour pour nous. son âme a aussi son corps. Son corps qui, pour nous, a souffert des traitements si cruels et si humiliants. Après A vient le R, comme dans reconnaissance. On y rend grâce à Dieu de ce qu'il est venu à nous dans la Sainte Communion, de ce qu'il est venu sur la terre dans l'incarnation, de tous les mérites, de tous les exemples de vertu qu'il nous a laissés. Reconnaissance d'avoir institué la Sainte Eucharistie et tous les autres sacrements. Reconnaissance de sa mort et de notre rédemption. Bien sûr, on peut remercier pour d'autres choses. La lettre D, c'est demande. Implorons-y la rémission de nos péchés, la persévérance dans la grâce et dans une vie sainte, la force d'éviter les péchés dans lesquels nous tombons le plus souvent, malgré nos efforts. Après la demande, vient le tour de l'offrande, la lettre O. C'est d'abord offrir à la Sainte Trinité Jésus hostie qu'on vient de recevoir. Ensuite, offrons avec lui nous-mêmes, notre âme, notre corps, tout, sans aucune exception. Enfin, la lettre R, c'est d'y prendre la résolution. R. Résolution de persévérer, avec l'aide de la grâce, dans l'observance des commandements. Résolution de tout faire pour Dieu. Résolution d'être apôtre parmi les autres, faire connaître le bon Dieu. Ne reste que par notre comportement, comportement qui tranche net avec celui des mondains. Souvent, chers fidèles, on ne sait pas comment remplir notre action de grâce après la Sainte Communion. On le fait par devoir ou par habitude, mais on en sort froid. Eh bien, cette méthode devra réchauffer notre quart d'heure avec Jésus hostie en nous. Car ardeur signifie, rappelons-le, feu, ardeur. Si nous le faisons bien, nous n'entendrons jamais la plainte que notre Seigneur adressa un jour à une religieuse. Je cite. « Je suis, dit notre Seigneur, je suis au tabernacle toute la nuit et j'attends cette âme. Je désire avec ardeur qu'elle vienne me recevoir, qu'elle me parle, qu'elle m'expose ses peines, ses tentations, ses souffrances, qu'elle me demande conseil et qu'elle sollicite la grâce dont elle a besoin pour elle ou pour d'autres. » « Viens, lui dis-je, parle-moi de tout avec une entière confiance. Intéresse-toi aux pécheurs, offre-toi pour réparer. Dis-moi qu'aujourd'hui, tu ne me laisseras pas seul. Puis demande à mon cœur s'il ne désire pas de toi quelque chose de plus pour le consoler. » Voilà ce que j'espérais de cette âme, comme de beaucoup d'autres. Mais quand elle me reçoit, à peine me dit-elle une parole. Elle est distraite, lasse, contrariée. Ses affaires l'absorbent, sa famille l'inquiète, son entourage lui pèse, sa santé la préoccupe. Elle ne sait que me dire. Elle est froide, elle s'ennuie, il lui tarde de partir. Est-ce ainsi que tu me reçois, âme, que j'ai attendue avec désir toute la nuit? Oui, je l'attendais pour me reposer en elle et alléger ses inquiétudes. Je lui avais préparé de nouvelles grâces. Elle ne les désire même pas. Elle ne me demande rien, ni conseil, ni force. Elle se plaint seulement. Elles sont même s'adresser à moi. Il semble qu'elle ne soit venue que pour remplir une formalité ou suivre la coutume. Mais ce n'est pas l'amour qui la presse, ni le vrai désir de s'unir intimement avec moi. Non, cette âme n'a pas les délicatesses que mon cœur espérait du sien. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.